Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, édition du 10 septembre 2014. En direct du studio 13 à Washington, chez Robin Dorsil et Morgane Guiriec. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, bilan toujours à la hausse pour l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest.
En Centrafrique, le calme revient à Bambari après une forte tension ces jours derniers.
Plusieurs troupes des ex-combattants rebelles fortement mobilisées ces dernières 72 heures dans la ville s'en sont finalement retirées.
Nouveau rebondissement dans l'affaire de trafic de bébés au Niger. Le président de l'Assemblée en fuite souhaite faire l'objet d'un mandat d'arrêt international.
États-Unis, le président Obama doit préciser ce soir sa stratégie contre les djihadistes de l'État islamique.
Il peut, à mon avis, décider de renforcer les actions américaines, c'est-à-dire envoyer ses avions non seulement en Irak, mais aussi en Syrie.
On écoutera le professeur James Kaiser de l'Université de Virginie.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais tout d'abord, le journal.
Bilan toujours à la hausse pour l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Plus de 200 décès ont été enregistrés en seulement 4 jours. L'Organisation mondiale de la santé fait état d'un total de près de 4300 cas d'Ebola enregistrés dans 5 pays ouest-africains. On fait le point avec Sarah Diaby.
Près de la moitié des malades et décès ont été signalés au Libéria. Un rapport de l'OMS sur ce pays, publié lundi, a averti que l'on devrait s'attendre à des milliers de nouveaux cas probables au cours des 3 prochaines semaines. Karine Landgren, la représentante spéciale des Nations Unies pour le Libéria, estime que la crise aura une incidence sur le pays bien au-delà de l'urgence médicale actuelle. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est qu'il y a d'autres crises qui se cachent dans l'ombre du virus Ebola. Le système de santé régulier s'est effondré, ce qui a créé d'autres problèmes de santé dans son sillage. Des pénuries alimentaires sont signalées du fait de la hausse des prix des produits de première nécessité, a averti la diplomate. Selon l'OMS, la transmission rapide de la maladie continue aussi en Guinée et en Sierra Leone. Les États-Unis ont promis mardi de nouveaux fonds à hauteur de 10 millions de dollars pour soutenir les efforts croissants contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, le Pentagone a annoncé que son personnel a mis en place un hôpital de campagne de 25 lits à Monrovia, la capitale libérienne, pour les travailleurs de santé infectés.
En République centrafricaine, calme relatif à Bambari après le retrait de certains des ex-combattants de la Seleka. Le regroupement des anciens rebelles dans la ville ces derniers jours a créé une psychose générale. Par ailleurs, près de 200 ex-Seleka cantonnés à Bangui ont été relocalisés ce mercredi dans leur région d'origine. Félix Yepassi Zembro.
Jusqu'à mercredi, Bambari était calme et la panique s'est dissipée. Plusieurs troupes des ex-combattants rebelles fortement mobilisées ces dernières 72 heures dans la ville s'en sont finalement retirées. Rien d'officiel n'a filtré de leurs multiples réunions. Selon des sources locales, ces hommes lourdement armés et en nombre important avaient pour ambition de marcher à nouveau sur Bangui. De son côté, le général Joseph Zundeko, chef d'état-major des ex-Seleka, a justifié leur mouvement par la volonté de mettre fin à leurs conflits internes. Cependant, à Bangui, environ 175 ex-combattants Seleka basés au camp militaire RDOT à la sortie nord ont quitté la capitale. Il s'agit de la deuxième vague de rapatriement volontaire organisée par l'Organisation internationale pour la migration. Ces éléments vont être relocalisés dans leur localité d'origine, notamment dans les régions du nord et du nord-est. Début septembre, plus de 200 ex-combattants rebelles ont été ramenés dans leur localité d'origine. Notons par ailleurs que la nouvelle mission de l'ONU se met progressivement en place dans le pays. Plusieurs centaines de véhicules de la force onusienne sont visibles à Bangui.
Toujours en République centrafricaine, l'examen du bac, qui devait avoir lieu le 2 septembre dernier, a été reporté de 2 semaines en raison de la crise socio-politique que traverse le pays. Il faut dire que le système éducatif a beaucoup souffert de la guerre. Enseignants, élèves et étudiants agressés, des écoles pillées, saccagées. Tels sont, entre autres, certains des problèmes qui affectent le système éducatif centrafricain. Du coup, le déploiement des casques bleus dans le pays à partir du 15 septembre prochain suscite beaucoup d'espoir dans le milieu éducatif. On écoute Gervais Pangande, chef secteur à l'inspection académique du Centre-Sud à Bangui.
Et peu, il aura le baccalauréat, il aura une nouvelle rentrée scolaire, mais tous les enseignants n'ont pas pu rejoindre le poste, tous les élèves n'ont pas pu être sur place parce qu'ils ont encore peur, parce qu'on entend par ici les anti-Balaka, les Séléka, ils créent un peu de désordre un peu partout. Notre souhait le plus absolu, c'est qu'il faut ces forces de casque bleu pour vraiment s'étendre sur toutes les arrêts du pays afin que la sécurité puisse revenir, pour que aussi on puisse franchement mettre l'éducation en marche.
Au Niger, nouveau rebondissement dans l'affaire du trafic de bébés. Le président du Parlement nigérien, Ama Amadou, souhaite qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre lui. C'est ce qu'il a annoncé sur Radio France Internationale. Mesure qui, affirme-t-il, lui donnera l'occasion de se défendre. Aujourd'hui en France, le président du Parlement, principal opposant au président Mahamadou Issoufou, s'était enfui au Burkina Faso le jour où ses pairs avaient autorisé son audition par la justice pour une affaire de trafic de nouveau-nés en provenance du Nigeria. L'une des épouses de M. Amadou est incarcérée dans le cadre de cette affaire.
Au Burundi, plusieurs milliers de personnes ont assisté à Bujumbura aux funérailles des trois sœurs italiennes assassinées dans le couvent de Kamenge. Âgées de 75 ans à 83 ans, ces sœurs, on ignore encore les raisons de ce crime.
Au Kenya, la justice a classé sans suite l'affaire du gouverneur de Lamu faisant l'objet d'une enquête pour meurtre, transfert forcé de population et terrorisme. Il était soupçonné d'être lié à des massacres perpétrés dans plusieurs villes de cette région côtière.
Droits de l'homme en Gambie, Amnesty International et Human Rights Watch appellent le président Yahya Jammeh à invalider une loi instituant la prison à vie pour homosexualité aggravée. D'après ces organisations, la loi récemment votée par l'Assemblée nationale pourrait permettre de condamner des personnes séropositives à la prison à vie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry prédit que la coalition internationale que Washington essaie de constituer finira par défaire les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. M. Kerry a fait cette prédiction aujourd'hui à Bagdad, à l'issue de ses entretiens avec le nouveau premier ministre irakien Haider al-Abadi. Les précisions de Michel Joseph.
C'est par Bagdad que M. Kerry a commencé sa tournée d'une semaine au Moyen-Orient pour impliquer les pays de la région dans le combat contre les militants de l'État islamique. Sa mission, a-t-il précisé, est de mettre sur pied la coalition internationale la plus large possible. Certains partenaires aideront à entraîner, armer et équiper les forces irakiennes. D'autres fourniront de l'assistance humanitaire ou aideront à tarir les sources de financement des djihadistes et à empêcher des combattants étrangers à se joindre à eux. John Kerry tenait aussi à exprimer le soutien de Washington au nouveau gouvernement du Premier ministre Haider al-Abadi. Il s'est félicité de son engagement à procéder à de profondes réformes pour amener autour de la table tous les segments de la société irakienne. On reprochait à son prédécesseur, le chiite Nouri al-Maliki, d'avoir marginalisé la minorité sunnite, favorisant ainsi la montée des extrémistes.
Le groupe rebelle syrien Ahrar al-Sham a nommé de nouveaux dirigeants au lendemain de la mort dans un attentat de son chef et d'une quarantaine d'autres responsables réunis dans la province d'Idlib. Nathalie Barge.
Selon l'AFP, citant comme source l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 47 chefs religieux et militaires d'Ahrar al-Sham, une faction armée du Front islamique, ont été tués mardi dans la province d'Idlib. Le chef du groupe salafiste Hassan Aboud alias Abu Abdullah al-Lamawi figure parmi les victimes, a indiqué le Front islamique sur les médias sociaux. Selon l'OSDH, les rebelles ont péri dans un attentat à la bombe à proximité d'une cave alors qu'ils étaient en réunion. Dans une vidéo sur Internet, Ahrar al-Sham dit avoir nommé comme nouveau chef Hachem el-Sheikh alias Abu Jaber et Abu Saleh Tan comme chef militaire. Le Front islamique combat le régime syrien et les militants de l'État islamique qui ont été chassés de la province d'Idlib en mars dernier. Celle-ci est maintenant occupée en grande partie par le front islamique, tandis que sa capitale est sous le contrôle des forces de Bachar al-Assad.
En Ukraine, le président Petro Porochenko soumettra un projet de loi au Parlement la semaine prochaine, accordant plus d'autonomie à des régions de l'Est séparatistes, tout en les gardant sous le drapeau ukrainien. Il a promis un statut spécial à certaines villes des régions de Donetsk et Lugansk, contrôlées par les rebelles. Porochenko rejette cependant la fédéralisation ou l'indépendance totale de ces zones. Kiev et les rebelles séparatistes ont signé un accord de cessez-le-feu la semaine dernière. Par ailleurs, le président Porochenko a déclaré que la Russie a retiré plus des deux tiers de ses troupes de l'est de l'Ukraine. L'OTAN estimait à au moins un millier l'effectif des troupes russes en Ukraine.
Dans la région du Cachemire, les efforts de secours se poursuivent après les inondations qui ont fait au moins 457 morts en Inde et au Pakistan. Des milliers de personnes ont fui leur maison au Pakistan. Aujourd'hui, plus de 75 000 personnes sont affectées par les pluies diluviennes qui se sont abattues pendant une semaine sur la région. Ironie du sort, les pluies de la mousson qui causent tant de dégâts entre juin et septembre de chaque année sont un élément vital pour l'agriculture en Asie du Sud-Est.
En Asie du Sud, plus précisément, l'armée pakistanaise affirme avoir tué 65 militants présumés lors de frappes aériennes contre plusieurs cibles dans le Waziristan Nord, bastion des talibans. Selon la déclaration officielle, une série d'attaques dans le Datakrel a fait 35 morts tôt mercredi matin. Quelques heures plus tard, 30 autres militants ont été tués dans un village de la vallée de Chawal. La région est interdite aux journalistes, donc impossible de vérifier ces chiffres de sources indépendantes. Voilà pour le journal. Il est 18h41 en temps universel, 14h41 ici à Washington. Chez Robin Dorsil et Morgane Guiriec, en votre compagnie. Restez branchés pour la partie magazine de cette émission. Soudan du Sud pour commencer.
Le comité international de la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme au sujet de la famine qui menace des centaines de milliers de personnes. Le CICR lance un appel pour un montant supplémentaire de 19 millions de dollars en vue de couvrir une partie des besoins humanitaires massifs et croissants dans ce pays déchiré par la guerre. Jean-Roger Billon.
Le Soudan du Sud a largement disparu de la une des journaux internationaux et est en passe de devenir l'une des crises oubliées. Mais pour le comité international de la Croix-Rouge, l'on ne peut passer sous silence une tragédie qui touche 1,2 million de déplacés internes et 440 000 Sud-Soudanais réfugiés dans les pays voisins. Eric Markley, directeur des opérations du CICR pour l'Afrique de l'Est, demande un supplément de 19 millions de dollars pour faire face à cette situation.
Il s'agit fondamentalement d'assurer la survie des 150 000 personnes qui seront servies. Nous avons prévu qu'ils ne seront pas en mesure de s'autosuffire dans les mois à venir. Nous voulons faire en sorte que ceux-là, au moins, ne meurent pas de malnutrition.
L'UNICEF indique de son côté que près de 250 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë. 50 000 enfants sont en danger de mort, selon l'agence onusienne, s'ils ne reçoivent pas de traitement approprié. La saison des pluies, qui doit durer jusqu'à la fin de l'année, et l'insécurité sont de sérieux obstacles à la distribution par le CICR, de la nourriture par avion ou par la route. L'agence utilise le parachutage de petits aéronefs et des hélicoptères, ce qui en rajoute aux charges de l'opération. Les Nations Unies estiment au moins à 10 000 le nombre de personnes tuées et blessées depuis que les combats ont éclaté entre le gouvernement sud-soudanais et les rebelles à la mi-décembre. Eric Markley note une présence active de la Croix-Rouge sur le terrain depuis le début du conflit.
We have four surgical teams.
Nous avons quatre équipes chirurgicales qui se déplacent d'un endroit à un autre, là où il y a des besoins. Nous avons presque atteint 3 000 interventions chirurgicales depuis décembre. Il s'agit d'une opération importante et un chiffre significatif.
L'une des principales activités du CIC au Soudan du Sud est la protection des civils et des prisonniers dans les zones de conflit. Avec la permission des deux parties belligérantes, le personnel de l'organisation humanitaire a déjà visité près de 4 000 détenus. Le CICR fournit aussi de la nourriture, de l'eau, du matériel d'hygiène et des médicaments aux détenus.
« Le président Barack Obama va-t-il autoriser les frappes en Syrie dans le cadre de sa stratégie pour faire face à la montée des djihadistes, marquée par des conquêtes territoriales en Irak et des exactions de toutes sortes, y compris la décapitation de deux journalistes américains? Ce soir, le chef de l'exécutif américain s'adressera à la nation dans un discours où, présume l'AFP, il pourrait non seulement donner son feu vert à des bombardements de l'État islamique sur le sol syrien, mais aussi au renforcement de l'armée irakienne pour lutter contre cette grave menace.
Barack Obama s'est réuni en milieu de journée avec son Conseil de sécurité nationale en présence des plus hauts responsables de l'armée et du renseignement. Il a aussi maintenu des contacts au plan international, essayant de mobiliser une coalition contre l'État islamique dans le monde arabe et ailleurs. Cher Rubin Dorsil, vous avez demandé au professeur James Caesar de l'Université de Virginie d'évaluer les options de Barack Obama à quelques heures de cet important discours.
Il peut, à mon avis, décider de renforcer les actions américaines, c'est-à-dire envoyer ses avions non seulement en Irak, mais aussi en Syrie. Ça serait une extension de la guerre, si je peux utiliser ce mot-là.
Mais est-ce que des frappes américaines en Syrie ne contribueraient pas à aider l'homme que les États-Unis voulaient combattre, Bachar el-Assad? Obama avait dit « il faut que Assad s'en aille », mais ce sont les ennemis d'Assad précisément que l'on irait bombarder.
Ah oui, c'est un problème, bien sûr, parce que Obama était un président qui a parlé contre Assad, mais quand même, c'est ce qu'il va dire peut-être qu'il va aider les autres opposants à Assad en Syrie et non pas Assad lui-même. Si c'est vrai, je ne sais pas, mais en fait, ce sera le discours pour ce soir, à mon avis. Il ne peut pas admettre qu'il va aider Assad, ça c'est sûr.
Vous pensez donc qu'il y aurait, en même temps que des frappes américaines en Syrie contre l'État islamique, un renforcement de l'assistance à l'opposition dite modérée en Syrie?
Ce sera le discours. Et aussi, il va parler, bien sûr, d'une coalition qu'il est en train de former, les troupes qui vont venir, bien sûr, les Kurdes de l'Irak. Il va peut-être poser la question aux autres États arabes, est-ce que vous allez aussi commettre des troupes dans cette guerre?
Je pense à des déclarations faites récemment par le secrétaire d'État John Kerry et par le président Obama lui-même, disant que l'objectif final, c'est de détruire l'État islamique. Comment cela peut-il devenir réalité, selon vous?
Alors, d'abord, il va dire qu'il va détruire l'État islamique, parce qu'il y a une semaine, il a changé un peu son avis. C'est plus possible. Les Américains l'ont vu comme faible. Ça va prendre du temps, il va dire tout cela. Donc c'est l'objectif et ce soir il va parler de cet objectif. Si c'est possible ou non, je ne sais pas, c'est une question militaire. À mon avis, il va falloir mettre des troupes américaines dans l'action.
Vous pensez que Barack Obama ce soir va aussi penser à la politique intérieure en prononçant ce discours?
Oui, c'est important. Comme je disais, il a perdu vraiment le soutien aux États-Unis et c'est non pas seulement à cause de sa position en Irak, mais c'est un élément, c'est important pour lui en tant que président. Donc, il n'y a pas nécessairement une tension entre la politique intérieure et la politique extérieure, mais les deux considérations sont importantes.
James Caesar enseigne à l'Université de Virginie. Nous l'avons joint à Charlottesville.
Ce jeudi, dans Washington Forum, la menace terroriste en Afrique. Alors que le monde s'inquiète de la présence de l'État islamique en Irak et en Syrie, des Africains vivent chaque jour sous la menace des terroristes. Al-Shabaab, Acmi, Moujao ou encore Boko Haram, ces groupes font peur. Quelle réponse apporter pour les contrer? L'option militaire est-elle suffisante? Nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook et rendez-vous jeudi, 19h, temps universel, sur la voie de l'Amérique.
Les groupes armés du nord malien discutent à Alger avec les autorités de Bamako. Ces discussions interviennent un an après l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta, alias Ibeka. À cause de cette crise qui dure depuis janvier 2012, le pays est sous perfusion des organismes internationaux. Pour le regard des jeunes maliens face à cette situation, retrouvons Idriss Fall, notre envoyé spécial à Bamako.
Nous sommes à Bamako avec deux jeunes rappeurs.
Je m'appelle Ismaïla Doukouré, communément appelé Master Soumi, Galédo System.
Et vous?
Mahamadou Soumounou, alias Milmo Ensail.
Le Mali a connu une guerre. actuellement, on est en train de discuter de paix à Alger.
Ça nous soulage un peu, mais il faut que ça soit sérieux parce qu'il y a eu beaucoup de négociations. On n'avance pas.
Ibrahim Boubacar Keïta fait un an au pouvoir.
Personnellement, je ne suis pas du tout satisfait parce que c'était prévu que 60 jours après l'élection du président, il allait y avoir des discussions avec les groupes armés afin de sortir définitivement le Mali de cette crise. Ce qui n'a pas été chose faite. En plus de cela, le président s'est donné les moyens d'acheter un avion dans un pays qui est au fond du puits, occupé par les djihadistes, pendant qu'il y a plus de 400 000 Maliens qui sont réfugiés dans les pays voisins. Un président s'offre le luxe de s'acheter un avion. Nous, on ne peut pas comprendre ça. Deuxièmement, le président est en train de concentrer le pouvoir entre les mains des membres de sa famille. C'est un peu le scénario Oumar Bongo qui se dessine au Mali. On n'est pas d'accord avec ça. Un an, c'est peu, mais on va rester à observer.
Les problèmes de la jeunesse, le chômage...
Tout simplement parce qu'ici, il y a tellement de vieux qui refusent d'aller en retraite. Il y a des bureaux dans lesquels on trouve des vieux à 70 ans ou 80 ans. Le chômage est dû d'abord à ça. Et aussi, si ces vieux-là passent le relais directement à leurs propres enfants. Nous qui sommes les enfants de pauvres, forcément on est obligé à aller mourir dans la mer ou bien réussir à être en Europe ou bien aux États-Unis pour vivre. Et que la jeunesse comprenne aussi qu'on doit créer. Si tu es artiste, tu dois essayer de faire des projets. On ne doit pas tout laisser à l'État.
Comme vous sentez pour l'ensemble des jeunes, de nous improviser ici un freestyle.
Yo, la séparation des pouvoirs, principe sacré des démocraties, mais l'ossature actuelle fait des mois un pessimiste ici, désaccord et contre-temps entre les faits et les dits. On fait semblant d'être content, mais où est passée la lune promise? Déception. Le citoyen lambda est très déçu. Je ne vous apprends rien de ce consensualisme très touffu. Copier-coller, répétition, répéter le ATT, mais vraiment, c'est faire du ATT sans ATT. Kidal Koindoum, armée malienne d'Oum, Angasrasou Tsegatale, Sofralan, Safoukoubou, on est souverain ou pas? La Djiboura Maméninga, est-ce c'est pour notre bonheur ou le plaisir de Intala?
Vous aussi.
Mugubonda farila soldat Murutilendo, couvre-feu, couvre-feu, yeah. Jamanabe Nimakarana, général Tounounendo, couvre-feu, couvre-feu, hein. Malienne, malien.
Depuis Bamako, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Daraoulila Songalamaye, Buru Fierauna, Nye Sunjata Shukunu, Abafoka Tigerana, En Sahel, Yémen.
Nicolas Pino est en studio, il a fait comme moi, il a imaginé un peu la musique. Salut Nicolas.
Bonsoir.
Bonsoir. Nicolas, c'est pour les sports. Alors, on va commencer ce soir à parler de football. La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2015, lourde défaite de la Côte d'Ivoire à Yaoundé.
Eh oui, au stade Amadou Ahidjo, archi-comble, les Lions indomptables l'ont emporté 4-1 devant les éléphants. Nigé et Aboubakar, auteurs chacun d'un doublé pour les Camerounais. Yaya Touré avait réduit la marque pour les éléphants. Le fait du match, la sortie de Serge Aurier sur civière. À la suite d'un choc à la tête, l'Ivoirien a perdu connaissance et a dû être évacué à l'hôpital. Mais ce soir, tout est rentré dans l'ordre pour le joueur du PSG.
Dans ce groupe D, le suspense est relancé pour la deuxième place puisque la République démocratique du Congo l'a emporté cet après-midi contre la Sierra Leone.
2-0 à Lubumbashi. Le match avait dû être délocalisé pour cause d'épidémie d'Ebola à Freetown. Moubele et Bokila permettent aux Léopards d'occuper ce soir la deuxième place du groupe à égalité avec la Côte d'Ivoire. On va écouter le capitaine de la RDC, Youssouf Moulumbu.
C'est un faux pas qui s'est produit face au Cameroun. On a rectifié le tir aujourd'hui. Je pense que vous l'avez dit, on s'est créé beaucoup d'occasions contre le Cameroun. Après, malheureusement, il y a des coups du sort qui sont gagnés. Donc aujourd'hui, nous, on a gagné et on va se concentrer sur le prochain match. C'est un travail d'équipe. Et aujourd'hui, vraiment, comme je l'ai dit dans les vestiaires, je suis fier de mes joueurs. Et je pense que c'est le début d'une aventure. Voilà.
Le début d'une aventure, Youssouf Moulumbu, capitaine des Léopards.
À Pointe-Noire, les autres Congolais, nous le disons sans connotation péjorative, confirment leur beau parcours, Nicolas.
Et oui, victoire 2-0 des Diables Rouges face au Soudan. Les joueurs de Claude Leroy sont seuls en tête de ce groupe A avec 6 points. À suivre Afrique du Sud, Nigeria, les Super Eagles qui espèrent se relancer.
Autre match déjà terminé.
Deuxième défaite en deux matchs pour l'Éthiopie. Les Flammes du Malawi s'imposent 3-2. À suivre tout à l'heure Algérie-Mali à Blida. Dans le groupe C, le Burkina Faso a le sourire. Ce soir, après s'être imposé 3-0 à Luanda face à l'Angola, les étalons ont premier de ce groupe devant le Gabon qui est allé faire match nul 0-0 au Lesotho. Dans le groupe F, précieuse victoire du Ghana à Lomé 3-2 sur le terrain des Éperviers. Adebayor avait pourtant inscrit le second but au Gaulais. Le Ghana occupe la deuxième place de ce groupe avec la Guinée. Et c'est une surprise puisque l'Ouganda est première du groupe après avoir battu à Kampala le Sili National 2-0. Et puis dans le groupe F, le Mozambique et le Niger ont fait match nul un partout. Enfin dans le groupe G, à Gaborone, le Sénégal menait 1-0 à la mi-temps. Un bon résultat avant le choc de l'Afrique du Nord, Tunisie, Égypte.
Et on parle gros sous en Angleterre dans le football.
Oui, évidemment, Manchester United annonce un revenu annuel record pour l'année précédente de plus de près de 540 millions d'euros. La saison dernière, le revenu du sponsoring était en nette augmentation, plus 50%. Après la signature en juillet d'un contrat de 10 ans avec l'équipe Monty Adidas. Attention, tenez-vous bien, la somme, c'était 940 millions d'euros.
Coupe du monde de basket, les Américains accèdent aux demi-finales.
La Slovénie avait réussi à contenir les États-Unis pendant une mi-temps à Barcelone avant de subir leur foudre. Victoire 119-76 des Américains. Ils affronteront au prochain tour la Lituanie.
Et une petite note sur la 17e étape du Tour Espagne en cyclisme.
On n'oublie pas le coup de pédale de l'Allemand John Degenkolb qui a remporté au sprint sa 4e victoire sur la Vuelta en s'imposant au terme des 190 km entre Ortigueira et La Corogne. L'Espagnol Alberto Contador conserve le maillot rouge de leader.
Merci Nicolas.
Roger Muntu est arrivé à nos côtés pour la page musicale. Salut Roger.
Salut Morgane. Elle s'appelle Tikas, une jeune mélomane originaire de la Guadeloupe, influencée par plusieurs styles de musique comme le zouk, le gospel, la soul. Tikas est une artiste à la fois douce et sensible, d'une voix cristalline et sensuelle. Ce soir, en featuring avec Mouine, on écoute sa nouvelle chanson « Doudou, réfléchis ».
Doudou, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé?
Alors Tikas est à la fois auteur et compositeur et ses textes sont plutôt calmes et chaleureux.
Oui Morgane, son goût et son respect pour la musique la poussent toujours à la perfection. Tikas a participé à plusieurs projets en tant que choriste et d'ailleurs elle continue à se produire dans sa chorale de gospel Sankofa Unit.
Voilà, c'était Tikas en featuring avec Mouine dans Doudou Réfléchis. Merci Roger.
De rien Morgane, à bientôt.
Roger Muntu que vous retrouvez tous les soirs dans le RM Show à 20h, temps universel.
Pour pas pouvoir t'adorer, il n'en maudit pas, bébé, mon content.
Sur cette note s'achève Le Monde aujourd'hui. Michel Joseph a dirigé la mise en onde, accompagné à la technique de notre ami Maclean, Ramkus de préférence. Et avant de partir, Morgane, un salut spécial à nos amis du Nord du Faso qui nous écoutent sur Radio Wenpanga à Waiguya. Vous avez fait le bon choix, chers amis.
Voilà, on les invite aussi à nous laisser des messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Prochain rendez-vous dans une demi-heure avec Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil.